le 27 septembre à Carbonne et portera sur Naissance, vie et mort des étoiles par Jean-Noël Sarraille. Voilà, je rappelle le mode de fonctionnement des soirées Pupenvol. Il va y avoir la conférence présentée par Philippe Fréchet, qui est présent. Ensuite, trois quarts d'heure à peu près. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions pendant 20 minutes, une demi-heure. Et puis, il y aura la troisième partie, qui est à côté, où une auberge espagnole vous est proposée. Et vous pouvez y participer sans aucun problème. Voilà. Alors, ce soir, Philippe Fréchet va vous parler de Blanqui. D'abord, qui est Philippe Fréchet? C'est quelqu'un de très important pour nous. Il a été le créateur de la PUPAL, Petite Université Populaire à Rive-l'Aise. Après des années de fonctionnement de la PUPAL, il nous a aidés, il a aidé en grande partie Jean-Pierre Soula qui est là, à monter la Pupenvol. C'est donc grâce à lui que la Pupenvol existe. Et c'est un peu notre père. Sans y mettre d'âge, bien sûr. Voilà, et il va vous parler ce soir de Blanqui. Une chose que beaucoup de personnes, si je ne me trompe, ont retenu de Blanqui, c'est ni Dieu ni maître. Ça a été celui qui a lancé cette phrase, ni Dieu ni maître. Il n'était pas anarchiste, il n'était pas inscrit, il n'est pas anarchiste pour autant. Mais Philippe Fréchet va sûrement mieux vous en parler que moi. Je vous avoue que je ne connais pas tout de Blanqui. Donc je vais lui laisser la parole. Passez un bon moment de conférence et puis à tout à l'heure. Merci.
À toi, papa.
Est-ce que on laisse les lumières?
Non, on peut. Comme vous voulez. Ah voilà, c'est très prévu.
Il y a un peu de friture. Ça va, c'est pas trop dérangeant.
Ça va. Non.
Donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je viens ici. Je n'avais pas envisagé cette paternité, cet angle-là, en tout cas.
Il faut l'assumer.
Mais bon, puisque je veux bien l'assumer. Je vais vous parler ce soir de Blanqui, et je ne vais pas faire d'introduction autre que celle qui est prévue dans mon diaporama. Donc j'attaque tout de suite. Lorsque je travaillais sur des sujets touchant à l'histoire politique du XIXe siècle, que ce soit pour ma conférence sur Louise Michel, pour celle sur Élisée Reclus ou celle sur Jean Jaurès, donc des personnes très importantes pour moi du XIXe siècle, à différentes périodes, parce que Jean Jaurès, si Louise Michel et Élisée Reclus sont exactement des mêmes années, Jean Jaurès est plus jeune qu'eux. À chaque fois, je rencontrais des mots qui revenaient tel un refrain, Blanqui, le blanquisme, les blanquistes, avec toujours une sorte d'aura de mystère autour de ces termes, sans que jamais les choses soient très claires pour moi. Blanqui et les blanquistes étaient-ils socialistes? Étaient-ils communistes? Étaient-ils anarchistes? Étaient-ils autre chose encore? Pourquoi ce personnage récurrent fut-il à la fois aussi présent dans l'histoire politique du XIXe siècle, puisqu'on le voit apparaître en 1830, en 1848, en 1870, entre autres, et en même temps aussi absent, du fait bien sûr de ses nombreux et longs séjours en prison? Qui était Auguste Blanqui? Que voulait-il exactement? Comment comptait-il l'obtenir? toutes ces questions que je me posais, je ne voulais pas les laisser dormir dans l'ombre, il fallait que je comprenne. Et là, je vais faire une petite parenthèse quand même, pour préciser que j'ai commencé à travailler il y a plusieurs années, peut-être 5 ou 6 ans, je ne sais plus, sur Blanqui. Et puis devant la difficulté, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. Et puis la vie a fait qu'il y a 2 ans, je suis allé vivre tout près de sa ville natale, puis j'étais né dans le nord-ouest des Alpes-Maritimes. Et là, je me suis dit que c'était une espèce de signe là que Blanqui m'envoyait et que je ne pourrais pas passer outre. Donc j'ai repris mes bouquins, j'en ai trouvé d'autres, et j'ai recommencé le boulot, et voilà, donc le fruit de mes recherches, de mes réflexions et de mes interrogations, qui restent pour certaines toujours des interrogations. Auguste Blanqui, l'insurgé, l'enfermé. Là, je précise que ce diaporama que j'avais réalisé tout seul avec mes petits moyens a été valorisé, a été mis au propre et avec des techniques de professionnels par un ami infographiste, Franck Aguila, que je remercie, bien qu'il ne soit pas là, puisque c'est quelqu'un qui est dans les Alpes-Maritimes. Alors, premier constat, je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire des hommes qui aient déclenché autant de passion que l'obscur Blanqui, autant d'attirances enthousiastes que de haine féroce. On peut compter parmi les ouvrages qui lui sont consacrés à peu près autant d'hagiographie que de vomissement d'une haine irrépressible. C'est un peu, ça paraît un peu emphatique, mais c'est tout à fait la réalité. Parmi les positifs, l'incontournable « L'enfermé » de Gustave Geffroy, publié pour la première fois en 1897. Moi, j'en ai une édition de 1926, donc une réédition tout de suite après la mort de Geffroy. Et des amis, les éditions Lamourier, ont eu l'excellente idée de rééditer une seconde fois, donc biographie en 2015. Ce sont des éditeurs des Alpes-Maritimes, d'ailleurs. C'est une biographie qui a été écrite peu après la mort de Blanqui, et Geffroy, avait interrogé de nombreux acteurs de l'époque et recueilli des témoignages, donc presque à chaud. Et alors j'ai à la maison une pile de cet ouvrage, Blanqui, la réédition, que j'avais prévu de mettre sur une table pour vous proposer de les acheter. Et puis, bien entendu, je les ai oubliés à la main. Alors, parmi les haineux, citons, entre autres, parce qu'on entendra encore pire dans la seconde partie de notre exposé, Eugène de Mirecourt, qui écrit en 1857 Blanqui, le plus cynique des démoniaques conjurés pour la perte de la société moderne. Ou Victor Hugo, le grand Victor Hugo, qui a parfois des petitesses et qui ose cette description, homme effrayant promis à des destinées sombres, qui avait l'air d'un spectre lorsqu'il songeait au passé et d'un démon lorsqu'il songeait à l'avenir. Il est assez peu fréquent, vous en conviendrez avec moi, que dans le domaine de l'histoire, qu'un auteur passe des années et des années à travailler sur un personnage qu'il aborde. Et c'est pourtant le cas de Maurice Paz, qui a catalogué des milliers de pages manuscrites déposées par Granger, on verra tout à l'heure qui était Granger, un ami de Blanqui, vous l'imaginez. Donc après la mort de Blanqui, Granger a déposé à la Bibliothèque nationale des milliers de pages. Et donc Maurice Paz les a épluchées, cataloguées, rangées, lues, etc. Et il en fait de Blanqui, en 1984, dans cet ouvrage, un révolutionnaire professionnel, intransigeant, extrémiste, totalement coupé de la masse, un élitiste uniquement préoccupé par la destruction, sans se soucier de reconstruire. Alors je vais tâcher de montrer dans ce travail que Blanqui est bien autre chose que cela. Mais cela dit, je tiens à préciser quand même que je ne suis pas un inconditionnel de Blanqui et que je ne vais pas tenter de vous convertir au blanquisme ce soir. Et je tiens à préciser que je ne partage pas, par exemple, son patriotisme nationaliste et souvent xénophobe. Et même parfois quelques traces d'antisémitisme dont il a pu faire preuve à certaines occasions. Deuxième liminaire, les deux adjectifs que j'ai choisi d'ajouter à son nom dans le titre de cette intervention ne sont pas de mon fait, ce sont des surnoms qui lui ont été attribués. Ainsi, l'insurgé est le titre de la biographie que lui a consacré Alain Decaux, mais c'est aussi le titre d'un roman autobiographique de Jules Vallès, dans lequel Blanqui apparaît, brièvement mais nommément, à plusieurs reprises. Quant à l'enfermé, c'est le surnom qui lui était donné déjà de son vivant et qu'avait utilisé comme titre, on l'a vu, Gustave Geffroy. Alors pour vous donner une idée de la justification de ce dernier surnom, voici une diapositive que nous aurons l'occasion de revoir à plusieurs reprises tout au long de la première partie de notre conférence, sur laquelle sont représentées sous forme de bandes horizontales rouges sur la bande noire que vous voyez au milieu, toutes les périodes d'emprisonnement ou de résidence surveillée ou d'exil vécues par Blanqui, en tout plus de 33 ans, sans compter les moments où il doit se cacher. Mon exposé sera très simplement bâti en trois parties. D'abord une biographie que j'ai tenté de réduire à minima de façon à éviter qu'elle ne vous paraisse qu'une longue suite d'actes insurrectionnels suivis de périodes plus ou moins longues de perte de liberté, mais c'est pourtant à ça que se résume sa vie. Puis quelques portraits de Blanqui tracés par des amis ou des ennemis, et enfin un panorama rapide des idées sociales de l'époque, et quelques pistes de réflexion pour tenter de situer l'insaisissable Blanqui et ses émules, les blanquistes, dans ce fouillis idéologique. Donc première partie, biographie de Blanqui. Louis-Auguste Blanqui est le fils de Jean-Dominique Blanqui et de Augustine Sophie, née Brière de Brionville, de 22 ans plus jeune que son mari. Je n'ai pas de portrait de ses parents à vous montrer. Ce dernier, donc Jean-Dominique Blanqui, d'origine italienne, est d'abord professeur de philosophie à Nice, puis brièvement député de son département, délégué à la Convention en 1793, mais comme il est proche des Girondins, il est arrêté en octobre de la même année, emprisonné pendant 10 mois, et il ne sera libéré qu'après Thermidor et la chute de Robespierre. En avril 1800, sous le consulat, il est nommé sous-préfet des Alpes-Maritimes à Puget-Théniers. Et c'est donc à Puget-Théniers, dans le bâtiment de la sous-préfecture, à côté de l'église, là où est situé, comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'actuel bureau de poste, que Louis-Auguste va naître le 19 pluviose an 13, autrement dit le 8 février 1815, et non 1800. Pardon, non. Le 8 février 1805 et non le 1er février, comme il est indiqué fautivement sur cette plaque. Et pour vous donner. Non, je ne vais pas le lire parce que j'ai oublié le bouquin, donc je ne peux pas vous lire des extraits. Mais voici Puget-Théniers aujourd'hui, vu depuis la route en lacet qui descend du col Saint-Raphaël. Et voici Puget-Théniers à l'époque de Blanqui. Après donc une enfance sans histoire à Puget, dont il fréquente le collège, Auguste rejoint en 1818, il a donc 13 ans, son frère aîné Adolphe à Paris, où il mène des études brillantes, excellant dans toutes les disciplines, depuis le grec et le latin jusqu'aux mathématiques, remportant tous les prix. Cet enfant étonnera le monde, s'exclame son grand frère admiratif. À 17 ans, le 21 septembre 1822, Auguste assiste à l'exécution des quatre sergents de La Rochelle, de jeunes militaires qui sont guillotinés sur la place de Grève pour conspiration charbonnière contre le pouvoir. Et toute sa vie, Blanqui conservera le souvenir de cette exécution comme un scandale révoltant qu'il aurait mission de réparer, de venger. Il le racontera plus tard à Jules Vallès, qu'il accompagne au cimetière de Montparnasse sur la tombe des quatre sergents. C'est Blanqui qui parle, et c'est Jules Vallès qui retranscrit ses paroles. « C'est devant leur supplice que j'ai appris la haine de la société. Des femmes en grande toilette riaient aux fenêtres de l'hôtel de ville. Les jeunes gens étaient calmes, intrépides, au pied de l'échafaud. Derrière le cordon de soldats, des femmes, des jeunes filles, pleuraient à chaudes larmes. Oui, c'est de ce jour que j'ai juré de vouer ma vie à la défaite de leur bourreau. » Dès son adolescence, Auguste est attiré par la charbonnerie, société secrète issue des carbonari italiens, et dont les options politiques sont confuses et diverses, mais se rejoignent toutes dans le refus du retour des Bourbons au pouvoir. Il semble qu'Auguste, vers 1823 ou 1824, on ne sait pas trop, puisque par définition il n'y a pas d'archives écrites, ait été initié carbonaro. On verra que cette attirance se perpétuera dans les années suivantes, et on sait aussi que plusieurs personnalités qui se feront connaître ensuite par leurs idées sociales avancées étaient carbonaro, tels Étienne Cabé ou Pierre Leroux, dont on reparlera tout à l'heure. En 1824, ses études terminées, Auguste collabore avec son frère à divers journaux, le Courrier français, le Journal du commerce, et enseigne comme lui à l'École du commerce à Paris. Puis Auguste part travailler 2 années entières à Blagnac, donc pas très loin d'ici, comme répétiteur auprès du fils du général Compense. En 1826, il est de retour à Paris, répétiteur dans le collège où il a été élève, tout en préparant son droit et sa médecine. Il participe alors à des manifestations d'étudiants et sera même blessé pas moins de 3 fois dans la seule année 1827. En 1829, il a 24 ans. Après un voyage vers le sud qui lui vaut ses premières nuits en prison pour avoir voulu revoir sa ville natale, qui est revenue, comme tout le comté de Nice, aux mains du royaume sarde, Blanqui, de retour à Paris, entre comme correspondant parlementaire dans l'équipe de rédaction du Globe, l'organe de presse principal de l'opposition républicaine, journal qui a été créé par Pierre Leroux, ouvrier typographe socialiste proche des Saint-Simoniens, devenu journaliste et philosophe. Parmi les signatures, on trouve des personnalités aussi diverses que Sainte-Beuve, Chateaubriand ou Victor Hugo. Et à la même époque, Blanqui fréquente le salon de Mademoiselle Adélaïde de Montgolfier, la fille du fameux inventeur, où il rencontre entre autres l'écrivain et historien Jules Michelet, le chansonnier Béranger, le philosophe Edgar Quinet. 1830 est une année charnière et d'une importance majeure, autant dans l'histoire de la France que dans celle de Blanqui, puisqu'en mai, Charles X dissout la Chambre, dans laquelle l'opposition est majoritaire, mais les nouvelles élections renforcent cette majorité. En juillet, c'est la prise d'Alger, le 5, et puis les ordonnances de Saint-Cloud, le 26. Suspension de la liberté de la presse, nouvelle dissolution de la Chambre, modification du système électoral. Est-ce que ça marche peut-être mieux sur celui-là ?
Ça marche. C'est la proximité qui...
Si tu éloignes trop, on entend moins bien.
Ouais. Mais quand je mets, quand je mets trop près, ça grésillait. Celui-là, il ne grésillait pas. Ça ira mieux. Les trois jours suivants, 27, 28 et 29 juillet, le peuple est dans la rue. Ce sont les fameuses trois glorieuses, soulèvement populaire mené par la conspiration Lafayette, à laquelle participe Blanqui, vous vous en doutez. Soulèvement qui mettra fin au règne de Charles X et provoquera, au grand dam des insurgés, l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe. C'est la monarchie de juillet que Blanqui considère comme un détournement éhonté, une indigne usurpation. Car pour lui, Louis-Philippe, c'est le roi bourgeois par excellence, la boutique incarnée. Et le peuple s'est, encore une fois, fait berner. Dès le mois d'août, Blanqui est membre de la Société des Amis du Peuple, association de républicains résolus, avec des hommes comme Étienne Arago, François Raspail, le mathématicien Évariste Galois. Blanqui est l'un des rédacteurs du journal Au Peuple, clairement socialiste, influencé par Babeuf. En décembre, à l'occasion de l'enterrement de Benjamin Constant, Blanqui appelle ses camarades étudiants à venir armés à la cérémonie, à laquelle se rendront aussi de nombreux ouvriers. Cet appel à la violence et à la sédition lui vaut 3 semaines de cachot début 1831, du 23 janvier au 13 février, à la prison de La Force. Dans le Marais, il a 26 ans. Après la charbonnerie, le comité des écoles, qui était une association d'étudiants républicains, et les amis du peuple, c'est à la société des familles, elle aussi secrète et engagée dans la lutte républicaine armée, qu'adhère Blanqui, en devenant rapidement un des grands responsables avec Armand Barbès et Martin Bernard. En janvier 1832, la société ayant été dissoute par le gouvernement, il est à nouveau arrêté, condamné et emprisonné, d'abord à Versailles, puis à Sainte-Pélagie, à Paris, jusqu'en janvier 1833. Moins de 4 ans plus tard, en mars 1836, Blanqui, qui a mis au point avec d'autres membres de la Société des Familles un atelier clandestin où sont secrètement fabriqués de la poudre et des balles, est arrêté. Il sera enfermé 8 mois à la prison de Fontevraud, dans le Maine-et-Loire, puis placé en résidence surveillée à Pontoise jusqu'en janvier 1839. C'est à peu près de cette époque que date ce texte. La richesse naît de l'intelligence et du travail, l'âme et la vie de l'humanité. Mais ces deux forces ne peuvent agir qu'à l'aide d'un élément passif, le sol, qu'elles mettent en œuvre par leurs efforts combinés. Il semble donc que cet instrument indispensable devrait appartenir à tous les hommes. Il n'en est rien. Des individus se sont emparés par ruse ou par violence de la terre commune et, s'en déclarant les possesseurs, ils ont établi par des lois qu'elle serait à jamais leur propriété et que ce droit de propriété deviendrait la base de la constitution sociale. Tel est notre ordre social fondé par la conquête qui a divisé la population en vainqueurs et en vaincus. La conséquence logique d'une telle organisation, c'est l'esclavage. À peine de retour dans la capitale, avec ses amis Bernard et Barbès, ce dernier deviendra par la suite un de ses plus fervents ennemis, il participe à l'insurrection du 12 mai 1839, au cours de laquelle la Société des Saisons, qui a fait suite à la Société des Familles, tente de prendre l'hôtel de ville et d'instaurer un gouvernement révolutionnaire. Et à propos de cette société secrète, Marx dira qu'à l'encontre des autres sociétés de conspirateurs de l'époque, il s'agissait bien d'une société prolétarienne, et il y verra même l'antécédent de la Ligue communiste. S'il parvient à échapper aux poursuites pendant quelques temps, Blanqui finit par être pris en octobre de la même année et passera 4 ans de captivité dans des conditions extrêmement dures au mont Saint-Michel, avant d'être transféré presque mourant à la prison de Tours, puis celle de Blois. En janvier 1841, pendant son séjour au Mont-Saint-Michel, sa jeune femme, Amélie Suzanne, meurt à 26 ans des suites d'une maladie cardiaque. De 9 ans plus âgée qu'elle, il l'avait épousée en 1833 et ils avaient eu un fils, Estève, en 1834. On ne possède malheureusement aucune image d'elle, mais c'est elle-même qui avait peint ce beau portrait de son mari. C'est la révolution de février 1848 qui le libère en chassant Louis-Philippe et donnant naissance à la Seconde République. Mais sa liberté ne dure que peu de temps, car il se mêle bien entendu à toutes les manifestations contre le pouvoir. Il crée une nouvelle société secrète, la Société Républicaine Centrale, à laquelle il semblerait qu'un certain Charles Baudelaire ait participé, ainsi que l'écrivain et critique Sainte-Beuve et le poète Lecourte de Lille. Société qui entre rapidement en conflit avec le gouvernement provisoire de Lamartine, Ledru-Rollin et autres Aragon, donc ses anciens amis. Blanqui réclame l'ajournement des élections. Notre âme s'indigne à la pensée que les oppresseurs puissent ainsi recueillir le bénéfice de leurs crimes. C'est un sacrilège de faire mentir à leur propre salut 10 millions d'hommes, d'arracher à leur inexpérience la sanction de leur esclavage. Ce serait un défi par trop insolent aux barricades de février. Comme vous en doutez, le report des élections, même s'il a été décidé, ça n'était que pour quelques semaines, ce qui ne suffisait pas, bien sûr, pour enseigner, pour donner des informations à tout le peuple, et évidemment, les élections ont donné ce à quoi le gouvernement s'y attendait. On a des exemples encore aujourd'hui de ce genre de choses. Ici se place un épisode très douloureux pour Blanqui et plutôt sordide. En mars 1848, un certain Jules Taschereau, ancien avocat devenu secrétaire général de la préfecture de la Seine sous Louis-Philippe, rend public un document prétendant prouver que Blanqui aurait, en 1839, alors qu'il était en prison, dénoncé au ministre de l'Intérieur de l'époque des membres des sociétés secrètes. Ah, Blanqui, traître, cela arrange bien à la fois le gouvernement et certains de ses anciens amis, Barbès notamment, ne cessera d'utiliser cette accusation. Pour nombre d'historiens, le montage policier ne fait bien sûr aucun doute. Blanqui est donc à nouveau arrêté le 26 mai 1848 et incarcéré au donjon de Vincennes, et il vivra là son plus long internement, 11 ans et 4 mois. Dans diverses prisons, après Vincennes, ce seront Doullens, dans la Somme, Paris, Belle-Île, au sud de la Bretagne, Corté, en Corse, Marseille et même Mascara, en Algérie. Il est condamné pour attentat ayant pour but de détruire ou de changer le gouvernement, et c'est à des républicains qu'il le doit, dont certains de ses anciens amis. Blanqui ne sera finalement libéré qu'en septembre 1859. Entre-temps, vous le savez, la Seconde République a été confisquée par le président de la dite République, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'autre, suite au coup d'État du 2 décembre 1851 qui va instaurer le Second Empire. À peine libéré, Blanqui remonte bien entendu au front et il est à nouveau arrêté en juin 1861 pour activité dans des sociétés secrètes, publication clandestine et incitation à la sédition. Condamné à 4 ans de prison, il est enfermé à Sainte-Pélagie, geôle parisienne qu'il connaît déjà, et où les conditions de détention, cette fois-ci, sont beaucoup plus souples que celles qu'il a vécues jusqu'à présent, et il peut recevoir des visites, parmi lesquelles le jeune étudiant en médecine Georges Clémenceau et les deux futurs gendres de Marx, Paul Lafargue et Charles Longuet. Il parvient à s'en évader en août 1865, aidé par des étudiants qui forment le noyau des premiers planquistes. Il vivra 4 ans en exil à Bruxelles, puis à Genève, avec quelques brefs passages clandestins à Paris. Depuis la Belgique ou la Suisse, il correspond avec ses fidèles et rédige une instruction pour une prise d'armes, un petit livre dans lequel il explique l'art d'utiliser un peuple soulevé et de mener une insurrection, depuis la façon de construire des barricades jusqu'au problème de ravitaillement, en passant par les armes nécessaires. En fait, depuis Sainte-Pélagie, Blanqui est très discrètement en train de monter un parti clandestin, une nouvelle société secrète, avec une armée de l'ombre qui réunira, dit-on, jusqu'à 2000 membres. Les blanquistes sont donc nés là, au milieu des années 1860, dans un second empire déclinant. En effet, l'empire touche à son terme, et un événement manque mettre le feu aux poudres. Le 10 janvier 1870, un jeune journaliste de l'opposition, Victor Noir, qui était le nom de plume de Ivan Salmon, 21 ans, est tué d'un coup de revolver par Pierre Bonaparte, cousin de l'empereur. Le surlendemain, une foule immense participe aux funérailles, parmi laquelle Blanqui et son armée au grand complet, bien entraînée et disciplinée. Vallès en témoigne dans l'insurgé. On peut y voir aussi Louise Michel, vêtue en homme et porteuse d'une arme cachée, comme beaucoup d'autres. Mais Napoléon III, terrorisé, avait mobilisé plus de 100 000 soldats pour noyer dans le sang toute tentative d'insurrection. La révolution n'a pas lieu. 8 mois plus tard, le 14 août, sur l'insistance des chefs blanquistes les plus acharnés, qui voudraient être parmi les premiers à proclamer la République, Blanqui consent à tenter un coup de force. L'attaque d'une caserne pour y saisir des armes. Malheureusement, le coup est mal préparé, le peuple ne suit pas, c'est un fiasco complet, et il doit se cacher, tandis que plusieurs de ses lieutenants sont arrêtés. Et puis le 4 septembre, après l'annonce de la défaite cuisante de Sedan et la reddition de Napoléon III, prisonnier de Bismarck, c'est la chute de l'Empire et la proclamation de la République troisième du nom. Les débuts de la troisième, vous le savez, sont très mouvementés. La capitulation de Metz, le siège de Paris par les Prussiens, les atermoiements et trahisons du gouvernement de Thiers, le refus du peuple parisien de la reddition, la Commune de Paris, pour laquelle il faudrait une conférence entière, le 31 octobre, quand la foule envahit l'hôtel de ville et tente de renverser le gouvernement provisoire, dit de défense nationale, pour le remplacer par un comité de salut public, Blanqui en est, bien sûr. Le 8 février 1871, quand il s'agit d'élire une nouvelle Assemblée nationale, Blanqui est présent sur la liste des socialistes révolutionnaires, mais il n'est pas élu. Il se rend tout de même à Bordeaux, où se réunit la nouvelle assemblée, puis il va passer quelques jours de repos chez son ami le docteur Lacambre, qui, après avoir épousé une des nièces de Blanqui, s'est momentanément retiré dans le Lot. C'est là qu'il sera arrêté le 17 mars pour sa participation aux émeutes d'octobre, précisément la veille de la proclamation de la Commune de Paris, dont il va tout ignorer, puisqu'il sera enfermé à la prison de Cahors pendant les 2 mois du temps des cerises, sans aucun contact avec l'extérieur. Il ignore donc aussi que, malgré son absence de Paris, il a été spontanément élu comme tête de liste par plusieurs quartiers de Paris. Thiers en a tellement peur qu'il refusera de l'échanger contre l'archevêque de Paris et les 73 autres otages des communards. Rendre Blanqui à l'insurrection, dit Thiers, c'était lui envoyer une force égale à un corps d'armée. Le 22 mai, lendemain du début de la semaine sanglante, quand les Versaillais entrent dans Paris pour exterminer les communards, il est transporté en train puis en voiture, en grand secret, au château du Taureau, une île au large de Morlaix. Et c'est reparti pour un tour de clé, 8 ans et 3 mois en tout. Mais début 1878, un peu partout en France, un mouvement commence à se dessiner, réclamant la libération de Blanqui. On le veut pour débuter à Marseille, à Paris, à Lyon, à Rouen, à Bordeaux. Clémenceau lui-même prend sa défense dans un superbe discours à la Chambre des députés, on en entendra quelques extraits tout à l'heure. En avril 1879, Blanqui est même élu à Bordeaux, mais comme il est en prison, son élection est invalidée, et finalement, par un décret du nouveau président de la République, Jules Grévy, Blanqui est gracié le 10 juin 1879. À peine sorti, il milite activement pour une amnistie générale de tous les condamnés, emprisonnés et déportés politiques. Aujourd'hui, dit-il, je suis libre. Il n'est par conséquent plus nécessaire que vous vous préoccupiez de ma personne. Il n'en est pourtant pas ainsi de tous ceux qui, comme moi, ont subi la détention et l'exil. Plusieurs sont encore à Cayenne et à Nouméa. C'est de cela que vous devez vous préoccuper. Et il part aussitôt sillonner la France, Bordeaux, Marseille, Nice, Toulon, Lyon, Vienne, Rouen, Saint-Étienne, Paris. Mais il faudra attendre juillet 1880 pour que cette loi d'amnistie soit enfin votée. Paul Lafargue l'invite à Londres, où Marx souhaite le rencontrer, mais il ne semble pas qu'il s'y soit rendu. En revanche, il va à Milan, l'automne 1880, avec Henri Rochefort, pour visiter Garibaldi, qui est très malade et presque paralysé. En novembre 1880, il crée un nouveau journal anticlérical, militant pour la séparation de l'Église et de l'État et pour l'instruction laïque, « Ni Dieu, ni Maître ». Parlait Gilles tout à l'heure, qui durera 71 numéros jusqu'en novembre de l'année suivante. En décembre, malgré le froid et une voix presque inaudible, il n'avait pas droit à un micro à l'époque, il participe encore à quelques réunions publiques, dont une avec Louise Michel, tout juste rentrée de déportation en Nouvelle-Calédonie. Le 27, au retour, 27 décembre, donc, au retour d'une de ses réunions, il s'effondre chez son ami Granger, chez qui il loge, terrassé par une congestion cérébrale. Après 5 jours de coma, il s'éteint le 1er janvier 1881. Il ne lui manquait qu'un mois pour boucler sa 76e année. Aux funérailles, le 5 janvier, une foule immense, 200 000 personnes, dit-on, l'accompagne au Père Lachaise, où plusieurs orateurs prennent la parole, dont Louise Michel. Les drapeaux rouges ont été interdits par la police. Alors avant de passer à notre seconde partie, les portraits, je vous propose de jeter un dernier coup d'œil sur cette vie hors du commun, avec cette diapositive un petit peu compliquée, que je vous ai déjà montré au début, et où sont résumées ces 76 années, donc plus de 33 enfermés. Donc je vous rappelle, les bandes rouges, sur la bande noire de sa vie, les bandes rouges sont les périodes d'enfermement ou d'exil, ou de résidence surveillée. Blanqui, on le voit avec la bande qui est en bas, aura survécu, aura subi et survécu à 7 gouvernements différents, du Premier Empire jusqu'à la Troisième République, en passant par la Restauration, la monarchie constitutionnelle, la Seconde République et le Second Empire. Et il aura vécu pas moins de 3 révolutions. Alors, quelques portraits. Et comme je l'ai annoncé en introduction, certains de ces portraits seront au vitriol et d'autres à la violette. Je vous les livre tels quels, sans commentaire. Alors, laissons d'abord la parole à Blanqui lui-même pour un autoportrait. je suis ancré en politique de la passion la plus violente. J'ai combattu toute ma vie pour la justice et pour le droit, contre l'iniquité et le privilège, pour les majorités opprimées, contre une minorité oppressive. Pauvre et captif, j'ai vécu. Pauvre et captif, je mourrai. Nul plus que moi, je pense, n'a le droit de dire que les malheureux sont ses frères. Il est difficile de ne pas mêler à la pitié pour ceux qui souffrent, l'aversion pour ceux qui font souffrir. J'ai ressenti la compassion et la colère, mais je n'ai fait de mal à personne, et seul j'ai payé les frais de mes indignations. Alexis de Tocqueville, en 1848. Je vis paraître à son tour à la tribune un homme que je n'ai vu que ce jour-là, mais dont le souvenir m'a toujours rempli de dégoût et d'horreur. Il avait des joues hâves et flétries, des lèvres blanches, l'air malade, méchant et immonde, une pâleur sale, l'aspect d'un corps moisi, une vieille redingote noire collée sur des membres grêles et décharnés. Il semblait avoir vécu dans un égout et en sortir. On me dit que c'était Blanqui. Clémenceau. Blanqui n'était pas un théoricien et il restait étranger aux conceptions systématiques. Par contre, il possédait au plus haut point les qualités qui font l'homme d'action, le courage, la sincérité, la générosité. C'est par là qu'il forçait la sympathie. De plus, en dépit d'une apparente faiblesse physique, il se manifestait comme un étonnant professeur d'énergie. Surtout, il savait créer autour de lui un climat d'enthousiasme révolutionnaire. Par là s'explique, à mon avis, l'emprise si forte qu'il exerça sur ses contemporains. Victor Hugo, encore lui. Toutes les lueurs de 93 étaient dans sa prunelle. Il avait sur le corps les mêmes habits depuis 12 ans, ses habits de prison, des haillons qui l'étalaient avec un orgueil sombre. Il ne renouvelait que ses chaussures et ses gants, qui étaient toujours noirs. Avec cela, des ablutions fréquentes, la propreté mêlée au cynisme, de petites mains et de petits pieds. Il y avait dans cet homme un aristocrate brisé et foulé aux pieds par un démagogue. Une habileté profonde, nulle hypocrisie, le même dans l'intimité et en public. Âpre, dur, sérieux, ne riant jamais. Payant le respect par l'ironie, l'admiration par le sarcasme, l'amour par le dédain et inspirant des dévouements extraordinaires. Il n'y avait en Blanqui rien du peuple, tout de la populace. Avec cela, les traits, presque érudits. À de certains moments, ce n'était plus un homme. C'était une sorte d'apparition lugubre, dans laquelle semblaient s'être incarnées toutes les haines nées de toutes les misères. Étrange figure de fanatique à froid, qui a sa sauvage grandeur. C'est plein de contrastes. Vous allez voir des portraits que trace Paul Lafargue, donc un des gendres de Marx, vers 1867. Son intelligence, toujours active, suivait et s'assimilait toutes les découvertes de la science moderne. Ses instincts, ses tendances étaient ceux que nous avions tous, nous qui entrions à peine dans la carrière politique. Son corps semblait participer de la vigueur de son esprit. Sa démarche était alerte, c'était en courant qu'il montait les escaliers. Ses gestes, quoique mesurés et d'une parfaite élégance, avaient une vivacité qui dénotait une force virile. Et encore Paul Lafargue, en 1870, cette fois, le Drurolin disait qu'à la place du cœur, il avait une poche de fiel. Et les sycophantes de la bourgeoisie l'ont toujours dépeint comme un être insociable, ne connaissant que la haine. Est-ce qu'il pouvait comprendre les trésors d'affection qui remplissaient son cœur ? Cet homme insociable riait et causait comme le plus gai d'entre nous. Mais c'était surtout dans la société des femmes que toute la délicatesse et la tendresse contenue de son âme se faisait jour. Et je le connais encore. Ah, voilà donc le fantôme de l'insurrection, l'orateur aux gants noirs, celui qui ameuta 100 000 hommes au Champ de Mars. On disait que ce gant cachait une lèpre, que ses yeux étaient brouillés de bile et de sang. Il a, au contraire, la main nette et le regard clair. Il ressemble à un éduqueur de mômes, ce fouetteur d'océans humains. Et c'est là sa force. Les tribuns, à allure sauvage, à mine de lion, à coups de taureau, s'adressent à la bestialité héroïque et barbare des multitudes. Blanqui, lui, mathématicien froid de la révolte et des représailles, semble tenir entre ses maigres doigts le devis des douleurs et des droits du peuple. Ses paroles ne s'envolent pas comme de grands oiseaux avec de larges bruits d'ailes au-dessus des places publiques qui souvent ne songent pas à penser mais veulent être endormis par la musique que font sans profit pour les idées tous les vastes tumultes. Ses phrases sont comme des épées fichées dans la terre, qui frémissent et vibrent sur leur tige d'acier. Il laisse d'une voix sereine tomber des mots qui tranchent et qui font sillon de lumière dans le cerveau des faubouriens et sillon rouge dans la chair bourgeoise. Et c'est parce qu'il est petit et qu'il paraît faible, c'est parce qu'il semble n'avoir qu'un souffle de vie, c'est pour cela que ce chétif embrase de son haleine courte les foules et qu'elle le porte sur le pavois de leurs épaules. Et donc j'avais annoncé troisième partie, idéologie. Alors, personne, vous en conviendrez comme moi, n'est monolithique, taillé d'une seule pièce, immuable du début jusqu'à la fin, et au comportement identique dans toutes les circonstances. C'est aussi le cas de Blanqui, on l'a déjà perçu dans ces deux premières parties, et on va le voir à présent aussi sur le plan des idées. La pensée de Blanqui, je l'avais dit dès le départ, j'avais même renoncé à cette première fois à cette conférence, la pensée de Blanqui est très difficile à cerner, très difficile à définir, car, on l'a entendu, Clémenceau l'a dit, Blanqui n'est pas un théoricien. Ses idées politiques vont évoluer au fil de ses expériences, de ses tentatives, de ses rencontres et de ses échecs qui, on l'a vu, ont été nombreux. Bernstein, un de ses biographes, son biographe américain, écrit que son esprit oscillait d'une idée à l'autre et parle à son sujet d'une mosaïque de pensées. Nous allons donc tenter de les suivre, ces idées, entre républicanisme, socialisme, communisme et anarchisme, en faisant attention de considérer que ces termes n'ont pas forcément exactement les mêmes acceptions au XIXe siècle qu'aujourd'hui. Il ne s'agit là que de pistes de travail, de thèmes de réflexion qui pourraient être développés, et je ne prétends, je tiens à le préciser, je ne prétends nullement ni prodiguer la vérité vraie, ni fournir des réponses définitives. Alors, Blanqui, ça c'est indéniable, il est avant tout républicain. Pour avoir une petite idée de ce que ce mot, à présent fort galvaudé, signifie vraiment à son époque, écoutons Clémenceau, encore lui, qui a vraiment été son ami, c'est Clémenceau, avant d'arriver au pouvoir. Clémenceau s'adressait à la Chambre le 21 février 1879 pour demander la libération de Blanqui, toujours enfermé à Clairvaux. Personne n'a jamais entendu dire que Blanqui eût commis un délit de droit commun. C'est un homme politique, et nul ici ne le niera, un républicain éprouvé. Il a 74 ans, il a passé 36 ans de sa vie en prison pour la République. Vous pouvez penser qu'il a de la République une conception mauvaise, c'est-à-dire différente de la vôtre. Mais personne ne pourra contester que ce ne soit un ferme républicain dont la dignité est demeurée intacte dans les plus dures épreuves, dont le caractère est à l'abri de toute atteinte. Il parle aux députés. Si vous avez peur de tels hommes, comment entendez-vous gouverner ? Quelle est la raison au nom de laquelle vous proscrivez ? C'est la raison d'État. Et qu'est-ce que notre République, si vous en êtes réduit à fonder votre politique républicaine sur la raison d'État, qui est d'essence absolument monarchique ? Blanqui est républicain dès sa jeunesse. Dès, rappelez-vous, l'exécution des quatre sergents en 1822. Blanqui est aussi socialiste, au moins à partir de 1830. Mais le terme est lui aussi, hélas, galvaudé. Pour Blanqui, le socialisme pratique n'est d'aucune secte spéciale, d'aucune église. Il prend ce qui lui convient dans chaque système, n'a point d'engouement d'école et veut renverser ce qui existe, non point au hasard ni au profit des intrigues, mais en vertu de principes bien arrêtés, avec la ferme résolution de construire l'avenir sur de nouvelles bases que fournira le socialisme éclairé, développé et fixé par les événements. Alors là, je vais tenter de dresser un rapide panorama, très très rapide, très bref, rassurez-vous, de la pensée sociale de son époque pour tenter de le situer. Permettez-moi de citer encore Decaux à propos de ce 19e siècle riche en idéologie. J'aime cette époque où tant d'hommes peinent et rêvent sur l'avenir de l'homme. C'est un élan, une quête, une ardeur, une foi. Ces théoriciens du bonheur supportent tous les sacrifices. Ils renoncent, pour la plupart, aux quotidiennes nécessités. Pour qu'il n'y ait plus de pauvres, ils deviennent pauvres. On les persécute, on les diffame, on les emprisonne. Ils ne plient pas, ils sont purs. Alors, De Gaulle parle de Blanqui, bien sûr, c'est dans la biographie de Blanqui qu'il écrit ça. Mais il parle aussi de toute une lignée de ses prédécesseurs et de ses contemporains. Même si Blanqui les critiquera par la suite, il est indéniable que de 1830 à 1848 au moins, la pensée politique et sociale de Blanqui, composite éclectique, je le répète, a été influencée par les grands socialistes utopistes de son époque. Et d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, 1760. 1825, économiste philosophe, considéré par Tocqueville comme le premier des socialistes, puisqu'il aurait influencé, paraît-il, les théories matérialistes de Marx. Du saint-simonisme, Blanqui aura au moins retenu la condamnation du libéralisme, la foi dans l'homme, la solidarité et l'association. Charles Fourier, 1772-1837, influencé par le Britannique Robert Owen, il invente le phalanstère, sorte de grande communauté agricole où tous les biens sont mis en commun. Étienne Cabet, bon, je l'avais cité au tout début, j'avais dit qu'on en reparlerait, 1788-1856, auteur du fameux roman utopique Voyage en Icarie en 1840, influencé par More, Owen, et Rousseau, il défend lui aussi le communisme des biens, l'abolition de la propriété et la suppression du commerce. On a déjà eu l'occasion de parler de Pierre Leroux, 1797-1871, puisque c'est lui qui dirigeait le journal Le Globe, qui appartenait aux Saint-Simoniens, quand Blanqui y travaille vers 1830. Leroux, ancien ouvrier devenu patron de presse et philosophe socialiste romantique, est un proche de Georges Sand, dont il aurait fortement influencé les romans sociaux. Cela dit, cela n'empêchait pas Georges Sand de détester absolument Blanqui. Félicité Robert de Lamennais, 1782-1854, prêtre excommunié par le pape pour ses idées progressistes, auteur de Paroles d'un croyant, ouvrage très largement diffusé tant en France qu'à l'étranger et qui est un véritable appel au peuple à s'unir pour conquérir sa liberté. Et enfin, Louis Blanc, 1811-1882, socialiste réformiste qui s'oppose à la concurrence, préconise l'association, lui aussi, et la création d'ateliers sociaux, de coopératives ouvrières de production. Et contrairement au précédent, celui-ci mènera une carrière politique, devenant membre du gouvernement provisoire en 1848, et reviendra, après un exil à Londres pendant le Second Empire, siéger à la Chambre en 1871. Avec tous ces penseurs, Blanqui partage une analyse simple et pourtant très réaliste de la société de leur temps. Une classe dirigeante de 200 ou 300 000 riches oisifs vit au détriment de 30 millions de prolétaires avec l'aide du gouvernement. Blanqui communiste. Il avoue lui-même avoir été fortement influencé par sa rencontre dans les années 1830 avec un rescapé de la Révolution française d'origine italienne, Filippo Buonarroti, 1761-1837, proche de Gracchus Babeuf, 1760-1797, avec lequel il participe à la conjuration des égaux. Buonarroti, tout au long de sa vie, mettra en place des réseaux de sociétés secrètes à travers toute l'Europe. Alexandre Zevaès, dans sa biographie de Blanqui, précise « Le socialisme tel qu'il entend, ce n'est ni un système social plus ou moins hiérarchisé ou démocratisé comme celui de Saint-Simon ou de Fourier, ni le socialisme d'État de Louis Blanc, ni le mutualisme de Proudhon. C'est, reprenant, complétant et précisant la formule de Babeuf, le communisme. » Marx lui-même écrit dans une lettre en parlant de Blanqui que c'est un homme qu'il a toujours considéré comme la tête et le cœur du parti prolétaire en France. Ailleurs, Marx dit qu'il est convaincu que Blanqui était précisément le chef qui avait fait défaut à la Commune de Paris. Le 12 juin 1879, Blanqui vient d'être libéré de son dernier emprisonnement. Paul Lafargue, un des gendres de Marx, comme je l'ai déjà dit, lui écrit de Londres, « Vous émergez au moment où nous avons le plus besoin d'un homme pour constituer le parti prolétarien et le lancer à la conquête du pouvoir politique. Notre République bourgeoise a prouvé que la bourgeoisie a terminé son rôle révolutionnaire. Voilà 8 ans qu'ils sont là. Et ils n'ont même pas pu formuler un programme en passant les plus urgentes et les plus simples réformes pour l'amélioration de la classe ouvrière. Déjà, dès avant 1948, tandis qu'on était encore plongé dans les rêves utopiques des premiers communistes, vous avez eu l'honneur de proclamer la lutte des classes. Aujourd'hui, la lutte est engagée d'une manière terrible et de nouveau, vous apparaissez pour nous servir de porte-drapeau. Il semble que Blanqui ait laissé cette lettre sans réponse. Et pourtant, dans cette profession de foi blanquiste qu'est le Manifeste aux Communeux, publié en juin 1874 par un groupe de blanquistes réunis à Londres, où ils sont en exil après la Commune de Paris, on trouve ces phrases. Il est temps que ceux-là se reconnaissent qui, athées, communistes, révolutionnaires, concevant de même la révolution dans son but et ses moyens, veulent reprendre la lutte et reconstituer le parti de la révolution, le parti de la commune. Nous sommes athées, parce que l'homme ne sera jamais libre tant qu'il n'aura pas chassé Dieu de son intelligence et de sa raison. Nous sommes communistes, parce que nous voulons que la terre, que les richesses naturelles ne soient plus appropriées par quelques-uns, mais qu'elles appartiennent à la communauté. Parce que nous voulons que, libres de toute oppression, maîtres enfin de tous les instruments de production, terre, fabrique, etc., les travailleurs fassent du monde un lieu de bien-être et non plus de misère. Nous sommes révolutionnaires, parce que voulant la victoire, nous en voulons les moyens. Parce que, pour réaliser le but de la révolution, nous voulons renverser par la force, une société qui ne se maintient que par la force. Et enfin, pour Samuel Bernstein, son biographe américain, Blanqui est au contraire plus proche des Bakounine et des anarchistes. Pierre Joseph Proudhon, 1809-1865, socialiste utopiste, fédéraliste, mutualiste, est, semble-t-il, le premier à se proclamer anarchiste. Il va influencer ceux qui élaboreront la pensée libertaire. Mikhaïl Bakounine, 1814-1876, d'abord socialiste révolutionnaire, va rencontrer Proudhon et Marx à Paris en 1844, devient anarchiste au contact du Suisse James Guillaume et du géographe français Élisée Reclus dans le milieu des années 1860, et Marx parviendra à le faire exclure de l'international en 1872. On dit volontiers que si Proudhon est le précurseur et Bakounine le fondateur de l'anarchisme, Piotr Kropotkine, 1842-1921, en aura été le théoricien. Parmi ses nombreux écrits, relevons cette phrase. Notre action doit être la révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard, par le fusil, la dynamite, voire même parfois par le bulletin de vote, lorsqu'il s'agit de voter pour Blanqui, inéligible. Quant à Blanqui, il est anarchiste lorsqu'il dit par exemple « L'anarchie irrégulière est l'avenir de l'humanité. Le pouvoir, fléau exécrable, a cependant sa raison d'être et a comme son pivot l'ignorance des masses. C'est sa racine unique, mais profonde. Extirpez-la, le pouvoir tombe pour ne plus se relever. Le seul véritable agent révolutionnaire, c'est l'instruction. » Après la mort de Blanqui, si un certain nombre de blanquistes s'orientent vers le nationalisme et l'antisémitisme en s'associant à la suite d'Ernest Granger au mouvement boulangiste, bon, je ne vais pas vous citer les noms de ces blanquistes-là, d'autres autour d'Édouard Vaillant militeront à la gauche du mouvement socialiste. Quelques-uns se tourneront vers le radical socialisme ou vers le guestisme, ancêtre du Parti communiste français, et quelques autres, enfin, vers l'anarchisme. Donc, on peut penser que si les disciples de Blanqui ont éclaté comme ça dans tant de directions, c'est que toutes ces directions, on les trouvait déjà dans la pensée blanquiste. Donc, comme je l'ai dit au départ, très composite. On pourrait même évoquer un Blanqui écologiste, si on en croit ce passage. Depuis bientôt 4 siècles, notre détestable race détruit sans pitié tout ce qu'elle rencontre, hommes, animaux, végétaux, minéraux. La baleine va s'éteindre, anéantie par une poursuite aveugle. Les forêts de quinquina tombent l'une après l'autre. La hache abat, personne ne replante. On se soucie peu que l'avenir est la fièvre. Ça, c'est une phrase qu'on pourrait garder pour aujourd'hui encore. On se soucie peu que l'avenir est la fièvre. Les gisements de houille sont gaspillés avec une incurie sauvage. Les peuplades infortunées que notre éruption a surprises dans les solitudes américaines ou dans les archipels perdus du Pacifique vont disparaître à ce contact mortel. Et enfin, la conclusion que vous attendez tous. Il a été souvent reproché à Blanqui de vouloir détruire sans fournir d'idées précises pour reconstruire, d'être un révolutionnaire professionnel sans projet, un insurrectionnel sans programme. Il se trouve que, tout en continuant de travailler sur Blanqui et les blanquistes, j'ai déjà commencé un autre travail sur le philosophe et écrivain Albert Camus, et j'ai eu le grand plaisir de découvrir dans un de ses textes de jeunesse un article qu'il avait écrit pour une revue algérienne en 1937, cette phrase que, pour ma part, je trouve éminemment blanquiste. « Quoi qu'on en dise, les révolutions se font d'abord et les idées viennent ensuite. » Vous n'avez pas manqué, vous n'aurez pas manqué de remarquer comme moi que les initiales de Louis-Auguste Blanqui forment l'acronyme LAB, qu'il me plaît à moi de lire comme une abréviation du mot laboratoire. Et j'y vois le symbole d'une pensée en action, d'un chantier permanent d'idées en acte. Pour moi, le blanquisme n'est pas mort aujourd'hui et je me demande si, par exemple, des groupes activistes et autonomes comme les Black Blocs, qu'on peut voir à l'œuvre dans toutes les manifestations anticapitalistes depuis les années 80, ou les zadistes, ne sont pas des héritiers, sans doute même sans le savoir, de Blanqui. Et c'est à Gustave Geffroy que je laisserai le soin de conclure. Cette vie surhumaine, de douleurs consenties, de sacrifices obstinés, ne peut être perdue. Elle a privé l'homme des joies habituelles, lui a infligé la douleur de ne pas être compris, aimé, lui a donné ce visage offensé. Mais l'exemple est acquis pour jamais. Dans le même individu ont cohabité deux sentiments égaux, la résignation, la révolte. Résigné pour lui, révolté pour tous. La résignation le met à la hauteur des plus stoïques. L'esprit de révolte du vieux Blanqui s'allume comme le sel de la mer, imprégnera l'histoire. Alors, comme je le fais d'habitude, outre les ouvrages que je vous ai cités au tout début de mon intervention, je me suis également servi des livres suivants, donc je vous montre simplement les couvertures. Et puis la BD de Locatelli Gomsky, Le Roi, dont j'ai utilisé quelques images au cours du parcours biographique. Et aussi, surtout pour un travail complémentaire, je suis en train de poursuivre sur les blanquistes, du phénoménal travail initié par Jean Métron, poursuivi par toute une foule de chercheurs, dont je remercie vivement le meneur actuel, Claude Pelletier. Et ce travail est publié en volume et il est aussi accessible en ligne. Et je vous remercie de votre attention et de votre patience.
Comment comprends-tu le fait qu'il soit passé, qu'on en parle plus, qu'il soit passé sous silence maintenant, alors que c'était quelqu'un de très très connu.
Oui, très connu à son époque. Alors, pourquoi ce silence actuel, je ne sais pas, mais bon, j'essaye de faire à ma modeste part, de faire en sorte que qu'il sorte un peu de l'ombre, quoi. Parce que malgré le boulevard Auguste Blanqui à Paris, il ne reste pas grand chose de lui. Est-ce qu'il n'avait pas aussi lui-même un peu tout fait pour qu'on l'évite, mais pour que, en quelque sorte, pour que l'histoire ne le retienne pas, parce que l'histoire n'aime pas trop les méchants. C'est pas un méchant, Blanqui. C'est quelqu'un qui est complètement révolté, scandalisé par la misère et qui combat contre avec ses moyens. Alors, il n'est pas toujours. Il n'est pas toujours juste, mais il est toujours sincère.
Au départ, vous avez évoqué Jean Jaurès.
Oui.
Et ensuite, je n'ai plus vu apparaître Jean Jaurès. Et je voudrais que vous nous disiez quelle est la filiation, en définitive, entre Blanqui et Jean Jaurès. s'il y en a une.
Non, il n'y en a pas vraiment. J'ai évoqué Jean Jaurès simplement parce que j'ai une autre conférence sur lui. Et quand je travaillais sur Jaurès, comme quand je travaillais sur Louis Michel, sur Élisée Reclus, je rencontrais ce nom de Blanqui et je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Alors, à l'époque de Jaurès, on parlait beaucoup moins de Blanqui, mais on parlait des blanquistes. Puisque Blanqui donc, est mort en 81 et Jaurès est né en 57, donc en 59. Hein. Donc il était assez jeune à l'époque. Mais après, Jaurès a eu affaire aux blanquistes, mais avec qui il ne s'entendait pas. Les blanquistes, c'était l'opposition d'extrême gauche, enfin, les blanquistes, ceux d'Edouard Vaillant, quoi, la partie restée à gauche. Donc Jaurès, lui, a été plutôt un réformiste, même s'il se disait aussi révolutionnaire. Ça, c'est un peu toute l'ambiguïté de Jaurès. Alors, pour certains, l'ambiguïté, pour d'autres, sa largeur d'esprit, puisque par moments, il était révolutionnaire et par moments, il était réformiste. Mais il n'a jamais... La grande qualité de Jaurès, c'est qu'il n'a jamais accepté de poste de pouvoir. Donc, il est resté toujours... indépendant. Oui.
Par rapport à la situation de l'époque, comment peut-on comparer, enfin, placer les guédistes et les blanquistes? Les guédistes et les blanquistes. Parce qu'il y a eu un conflit entre ces deux mouvements.
Je ne sais pas répondre. Là.
Non, je connais pas, parce qu'on parle souvent de la situation entre les désaccords entre les partis blanquistes et les partis guédistes entre Juliette et Blanqui.
C'est un peu après Blanqui. Donc, c'est un peu compliqué parce que, comme je l'ai montré, cette déchirure-là entre Vaillant et Granger, les blanquistes après Blanqui, ça désigne des gens qui n'ont absolument plus rien à voir les uns avec les autres, qui ont même des idées complètement opposées. Puisque les blanquistes qui suivent Granger sont antisémites, anti-Dreyfusards, etc. Et les blanquistes qui sont avec Vaillant sont au contraire. Donc c'est très difficile d'utiliser ce terme blanquiste, surtout après la mort de Blanqui. Lui seul faisait l'unité, et encore, c'était difficile. Mais après sa mort, ça a clashé complètement. Les guestistes... moi, je dis guestistes. Je ne sais pas si c'est la bonne formulation. C'est les guestistes, les partisans de Jules Guest, qui... avec qui Jaurès... s'est entretenu plusieurs reprises et puis ils se sont fâchés, enfin ils ne se sont pas entendus. Les guestistes, c'est un peu les précurseurs du Parti communiste français. Le gros des troupes des guestistes ont formé le gros des troupes du PCF. Après le combat. Donc là, je ne saurais pas dire par rapport à Blanqui lui-même.
Vous avez évoqué tout le mal de penser Victor Hugo vis-à-vis de Blanqui, mais enfin Victor Hugo qui lui aussi se voulait être le défenseur des petits, de la misère. On peut quand même se demander si à un moment il n'aurait pas pu un peu mieux comprendre tous les malheurs de Blanqui pour étant donné les objectifs qui se fixaient. Est-ce que ça, vous avez pu relever là-dessus? Au contraire, une note un peu plus positive, par ailleurs, c'est peut-être pas évident.
Chez Hugo?
Chez Hugo.
Ouais, non.
Ça a été, la seule sentence.
Il est parti sur cette idée.
Très sévère.
Beaucoup de, à part Vallès, mais beaucoup d'écrivains comme Georges Sand haïssaient Blanqui. C'était quelqu'un aussi qui savait très bien se faire détester.
Quelle raison donnait Georges Sand pour haïr autant Blanqui?
Je ne sais pas. C'était viscéral, quoi, comme Hugo. Alors à partir du moment où on a quelqu'un dans le pif, tout est lu. Vous avez vu dans les portraits, hein, j'ai fait exprès de mêler des portraits positifs et des portraits négatifs. Vous avez vu à quel point le même caractère, la même caractéristique en tout cas, peut être lu de manière complètement opposée.
Oui, je me demandais, vu ce que je ressens de la façon dont vous parlez de Blanqui, que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai trouvé que c'était remarquable, la façon dont vous en avez parlé, tout du moins ça m'a touché. Je me suis demandé si justement ce fameux Blanqui ne les remettait pas en question, Victor Hugo, Georges Sand et tout cela. Parce que, est-ce qu'il n'était pas au-delà de ce que eux-mêmes faisaient ou voulaient faire croire qu'ils faisaient? Est-ce que ce n'était pas un être vraiment exceptionnel qui, quelque part, questionnait quand même certaines âmes bien pensantes, même s'ils étaient sincères eux aussi, mais j'en sais rien. Je me demande s'ils étaient prêts à aller aussi loin que lui. Est-ce que quelque part il ne les mettait pas à mal, en
fait? C'est probable. Vous avez
c'est comme ça que je le sens. Ouais. Je le sens comme ça. Après, je ne sais rien.
On peut tout à fait le lire comme ça.
Je ne connais pas du tout son histoire, mais la façon dont vous en avez parlé me fait penser à ça. Autre chose que je voulais vous demander, est-ce qu'on ne parle pas d'anarchisme aussi? Parce que quand vous faites référence à cet appel des marxistes, il n'y a pas répondu finalement. Ce qui peut paraître surprenant, mais qui, moi, ne me surprend pas dans la façon dont vous avez parlé de son histoire, ou de la façon dont je l'ai ressenti, puisque vous dites que ce n'était pas un théoricien. Donc c'était un homme d'action qui voulait le bien du peuple, etc., et qui voulait la fin de l'oppression, donc on pouvait le dire communiste. Mais est-ce qu'il était prêt à s'engager justement au niveau de Marx et de ses idées, etc., à les mettre en œuvre? Peut-être pas. Alors, il y a deux hypothèses. Enfin, je vois deux hypothèses. Soit il était au-delà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, parce que je le sens comme un grand homme. Ou alors, l'inverse, il n'était pas il n'avait pas assez cheminé pour poser des bases et les écrire, parce que je n'ai pas entendu dire, mais là vous pouvez me dire si oui ou non, s'il a écrit réellement ses pensées, et sa façon de voir et son idéologie, je pense que non.
Oui, il a écrit beaucoup d'articles.
Voilà, c'est ça, c'est là-dedans qu'on doit pouvoir voir s'il est prêt à passer à quelque chose d'autre qu'à l'anarchie. Parce que l'anarchie, ça ouvre des possibles. Mais ça
ne
met pas en œuvre quand même.
Je ne dis pas qu'il est anarchiste. Est anarchiste à certains moments, il est communiste à certains moments, il est socialiste.
Mais comment vous interprétez le fait qu'il ne répond pas à cet appel qu'il a eu?
Alors, il y a plusieurs hypothèses.
Voilà, c'est ça.
Il ne répond pas à l'appel de Marx. Je pense qu'il détestait Marx. Beaucoup de détestation. Marx était allemand.
Ça, vous ne l'avez pas dit.
Marx était allemand, il était juif.
Blanqui
est antisémite par moment. Il n'est pas toujours, mais enfin, il a des propos antisémites.
Ah, c'est moins glauque.
À un moment, ça me gêne un peu, beaucoup moins. Blanqui est xénophobe, il n'aime pas les Allemands, il déteste les Allemands. Donc, il y a des choses chez Blanqui qui ne sont pas du tout sympathiques.
Donc,
je l'ai dit d'entrée.
Il ne serait pas allé pour ça, quoi. Vous pensez plutôt.
Est-ce que c'est ça? Il n'est pas, il a absolument pas participé à la première internationale. Il a même, il avait commencé à envoyer des blanquistes à la première internationale et puis il les a rappelés. Il leur a interdit d'y aller. Certains, ils sont allés quand même. Ils ont été punis. Enfin, ils ont tout, enfin punis. Ils sont gueulés. Des règlements de compte assez sévères. Alors il y a plusieurs hypothèses aussi. Certains pensent que Blanqui n'avait pas envie de rentrer dans la première internationale parce qu'il aurait été trop petit là-dedans. Et Blanqui, c'est un chef, malgré ses échecs. Mais c'est quelqu'un, je pense que c'était quelqu'un de très orgueilleux. Mais vous avez raison aussi en disant que c'était quelqu'un d'entier. Sand, Hugo, Hugo va vivre longtemps en exil, mais enfin, ils vivent tous les deux confortablement. Ils sont des bourgeois, ils vivent dans des situations à l'aise, quoi, financièrement. Blanqui sacrifie tout. Blanqui aussi, alors, je réponds un petit peu dans tous les sens, mais je n'ai pas tout retenu ce que vous avez demandé. À partir du moment où Suzanne Amélie meurt, Blanqui n'a absolument plus rien à perdre. Il se fout totalement de tout ce qui reste, de tout le reste. La femme qu'il a aimée, vraiment, qu'il a chérie et qui aide, l'a toujours soutenue, meurt pendant qu'il est en prison. Et donc après, rien à faire. Son fils lui est confisqué, évidemment, puisqu'il est en prison. Il est élevé par un tuteur qui l'élève dans la haine du père et des idées du père. Il n'a aucun contact avec son fils. Quand il est âgé, il rencontre son fils et qui lui propose de loger chez lui, mais à condition qu'il n'ait plus aucune action politique et qu'il se taise. Et ça, pour qui il n'en est absolument pas question, il n'a plus de rapport avec son fils. C'est quelqu'un d'entier qui n'a rien à perdre. Voilà, je ne sais pas, il y avait peut-être d'autres. Si par rapport à Marx, je cite la phrase de Clémenceau qui dit Blanqui n'est pas un théoricien, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que c'est plus quelqu'un qui est dans l'action que dans la théorie, mais il est capable d'élaborer des théories de combat, de rue, etc. Il fait des plans de barricades, il fait des cartes de Paris où il marque des positions idéales pour les barricades, passer de telle maison à telle maison pour contourner la barricade, pour aller... il est très très fort pour ça. Donc c'est quand même une forme de théoricien. Et c'est quand même lui qui invente la lutte des classes. Le concept de lutte des classes, c'est Blanqui, avant Marx. Marx récupère ce concept. Donc c'est vraiment quelqu'un de très complexe, et c'est pour ça que je l'ai dit dès le début, et je l'ai répété plusieurs fois. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à cerner le personnage, et malgré toutes ces lectures et toutes ces réflexions, j'ai toujours quand même des interrogations.
Autre question?
Quand est-ce qu'on mange?
Ça peut être.
On l'applaudit?
Bien. Effectivement, j'ai pensé à côté participer à l'auberge espagnole. Merci beaucoup.
Possible,
malheureux,